OK, on va continuer notre étude qu'on fait sur le survol des 66 livres de la Bible. Nous en sommes rendus à l'Apocalypse. La semaine dernière, on avait fait la première partie de la leçon sur l'Apocalypse. Cette semaine, nous allons donc faire la deuxième partie et par le fait même terminer l'ensemble de toutes ces études qu'on a faites de tous les livres de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, juste pour faire un bref résumé de ce qu'on avait vu la semaine dernière, dans l'étude qu'on avait faite sur le livre de l'Apocalypse, on avait examiné les points suivants. On avait regardé l'arrière-plan, donc l'auteur, les destinataires, le lieu et la date de composition. On avait aussi examiné sommairement le contenu, le but principal du livre. Et on était rendu au thème. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les principaux thèmes du livre de l'Apocalypse. Alors, il y a un nommé M. Tenney, Tenney, qui a dit: l'interprétation correcte d'un livre dépend principalement d'une bonne compréhension de son thème principal. Autant et peut-être même plus que la structure, la connaissance du thème principal oriente notre approche d'un livre et notre compréhension de ses développements. Alors, un des thèmes du livre de l'Apocalypse, c'est vraiment celle de la victoire finale de Dieu. Le lecteur pressé qui veut connaître le thème d'un ouvrage se rapporte souvent à la conclusion. C'est là que l'auteur expose ses véritables pensées, même s'il a mené le lecteur à travers les dédales d'une longue recherche faite d'hypothèses et de réfutations. Celui qui veut connaître le thème de l'Apocalypse n'a qu'à se rapporter à ses derniers chapitres. Ils dépeignent la victoire finale de Dieu et de son Christ, ainsi que l'avènement de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. C'est bien là le thème principal du livre et le message que ses premiers lecteurs avaient besoin d'entendre. Devant les attaques de leurs persécuteurs et les victoires apparentes de l'ennemi, qu'ils discernaient derrière eux, ils se demandaient comment tout cela allait finir. L'Apocalypse leur déclare formellement: le dénouement de notre histoire humaine ne saurait faire de doute, en dépit de toutes les prévisions pessimistes. Ce message est résumé dans le dernier livre de la Bible, qui en constitue à la fois la synthèse et le couronnement. Deux pouvoirs s'opposent tout au long du livre, Dieu et Satan. Deux trônes se font face, celui du Tout-Puissant et celui de la Bête. La lutte sera longue et acharnés, les croyants ne seront pas épargnés, mais la victoire finale est certaine. L'Apocalypse, dit A.F. Johnson, peut être considéré d'un côté comme un commentaire détaillé de la déclaration de Paul dans Éphésiens 6:12, qui dit: nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. D'un autre côté, elle nous révèle le jugement final sur le mal et l'instauration du royaume de Dieu dans le temps et dans l'éternité. Ce livre n'a au fond qu'un seul thème: Christus Victor, qui veut dire victoire du Christ. Il nous dit: ne croyez pas que l'issue de la grande guerre cosmique soit incertaine. Le Christ sera vainqueur parce qu'il a déjà vaincu le monde. Certes, la victoire définitive sera coûteuse, comme l'a été la victoire de la croix, mais elle sera totale et irrévocable. Charles Rochedieu disait de son côté: il n'y a pas de livre qui donne d'une façon plus absolue la certitude de la victoire finale du bien sur le mal. de l'homme sur le diable et le péché, la mort et la souffrance. On pourrait presque en résumer le contenu général dans ce mot de Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Dans Jean chapitre 16, verset 33. La grande ligne de cet écrit est le message de la victoire de Jésus-Christ sur toutes les puissances antichrétiennes. Le thème du livre, c'est essentiellement la victoire du Christ et de son Église sur le dragon, Satan, et ses alliés. Dans toutes les prophéties de ce merveilleux livre, le Christ est toujours dépeint comme le vainqueur, le conquérant. Il remporte la victoire sur la mort, le séjour des morts, le dragon, la bête, le faux prophète et ceux qui adorent la bête, etc. Lui, il est victorieux et par conséquent, nous aussi, nous le sommes. Même si notre défaite semble définitive, comme le disait le commentateur William Hendrickson. Pour nous convaincre de cette vérité, l'Apocalypse présente la réalité telle que la voyaient les premiers chrétiens et telle que nous continuons à la voir autour de nous. La dure réalité, faite de guerre, de famine, de violence et de mort. Mais progressivement, elle nous mène derrière les coulisses de l'histoire en nous faisant connaître les forces réelles en conflit, celles du ciel et de l'enfer. Dieu et le diable. De même que les rayons X nous permettent de voir le squelette et les organes internes du corps, de même, l'Esprit Saint nous révèle les puissances cachées de notre histoire. Les chapitres 4 à 22 apportent une révélation des secrets de la marche du monde qui court vers sa fin, pour préparer les chrétiens et les fortifier pour le temps imminent des tribulations qui précéderont la parousie du Christ, c'est-à-dire sa venue en gloire à la fin des temps. Actuellement, les apparences peuvent être contraires, mais la réalité ultime n'est pas dépendante des apparences présentes. À travers tout le livre, Jean souligne cela avec insistance. Continuellement, il mène ses lecteurs derrière les coulisses. Si quelqu'un sait voir correctement tous les faits, il devient évident que les potentats humains ne font rien d'autre que d'accomplir le plan conçu pour eux par Dieu. L'Apocalypse fait passer devant nos yeux le triomphe du Rédempteur. Elle affirme la souveraineté du Seigneur, sa divinité, son œuvre expiatoire, sa résurrection, son action constante au sein de l'humanité, son retour glorieux et sa victoire définitive. Autre thème qu'il y a dans l'Apocalypse, c'est celui que Jésus-Christ est le maître de l'histoire. Monsieur Tenney dit que le thème de l'Apocalypse est clairement annoncé dans le titre, c'est-à-dire la première ligne du livre « Révélation de Jésus-Christ ». F. Orton, qui commente ces mots, dit « Il s'agit donc d'abord d'une révélation, c'est-à-dire d'un dévoilement par Dieu à l'homme de mystère divin. Il s'agit ensuite de la révélation de Jésus-Christ. En est-il le sujet ou la source? Les deux, et même plus, car le Christ agit comme le moyen par lequel l'annonce d'événements futurs est transmise, il est engagé dans les événements et c'est lui l'arbitre de la destinée de l'Église et du monde. Par conséquent, la clé de compréhension de l'Apocalypse est la personne et l'œuvre du Christ. Le maître de l'histoire, ce n'est pas l'un des grands de ce monde, mais Jésus-Christ. C'est pourquoi on peut dire aussi que le thème du livre, son centre, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui peut ouvrir le livre de la destinée humaine. Tous les hommes et la destinée de tous les hommes repose sur lui. Le pouvoir réel est entre les mains du Christ, le lion. Le caractère central du Christ est le thème dominant de l'Apocalypse. Toutes choses dépendent de la relation avec lui. Dans les Évangiles, Jésus nous est présenté dans son humanité. Il nous raconte comment il a vécu parmi nous, comment il a souffert la mort pour nous, comment il est ressuscité. Mais durant les 40 jours qu'il a passés avec ses disciples après sa résurrection, il ressemblait encore plus à un homme qu'à un Dieu. Il a mangé et bu en leur présence. Il leur a montré ses mains percées. Avant de remonter au ciel, il leur a déclaré « J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. » Matthieu 28, 18. Lors de l'ascension, ses disciples ont vu un petit reflet de ce qu'allait être sa gloire. L'Apocalypse nous le présente dans son état actuel. C'est dans ce sens que Bossuet a dit qu'elle est l'Évangile de Jésus-Christ ressuscité. Tandis que les autres récits du Nouveau Testament s'occupent avant tout les uns de la première venue du Christ mort et ressuscité pour nous, qui est l'objet de la foi, les autres du Christ vivant en nous, objet de l'amour, l'Apocalypse est le livre de l'espérance dirigeant nos regards en haut et en avant et destiné à rallumer la foi et l'amour en ranimant l'espérance. En elle, Jésus-Christ ne nous est pas seulement présenté comme notre sauveur personnel, mais comme le chef de son Église, comme le pivot de toute l'histoire mondiale. Dans un chapitre intitulé « Le véritable dessein de l'Apocalypse », R. Dubarry fait remarquer que le mot « révélation » ou « dévoilement » est immédiatement appliqué par le texte à Jésus-Christ. Il en ressort que toutes les notions bibliques que nous pouvons avoir sur le Fils de Dieu vont être, par ce livre, décisivement complétées. Celui qui, sur la terre, n'avait pour ainsi dire été vu qu'en petite tenue, qu'on pourrait dire, va nous apparaître revêtu de tous les attributs de sa royale majesté. Une telle manifestation ne s'imposait-elle pas comme conclusion de toute l'Écriture? R. Dubarry révèle 8 apparitions de Jésus-Christ dans l'Apocalypse. Il est le vivant, chapitre 1, verset 18. L'agneau immolé, chapitre 5, verset 6. Le rédempteur, chapitre 5, verset 9. Le médiateur entre l'homme et son Dieu, chapitre 8, verset 3. Et l'intermédiaire de Dieu auprès des hommes, chapitre 10. Le triomphateur, chapitre 12, verset 5. Le juge, chapitre 14, verset 14. Le fidèle, le véritable, la parole de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, dans chapitre 19, verset 11. Et de nouveau, l'agneau glorifié, chapitre 21, verset 22 et 23. Troisième thème de l'Apocalypse, c'est vraiment le grand combat séculaire. Puisque c'est le livre du grand conflit entre deux forces, ou plus exactement entre deux personnages, Dieu et Satan, l'Apocalypse nous fait aussi des révélations sur la personne de l'adversaire. Elle nous le présente sous des aspects contradictoires de beauté et d'horreur. Elle nous dévoile ses desseins, dévorés et accusés. Agit surtout par des intermédiaires, les sauterelles, la bête, et qui dispose de moyens séducteurs extraordinaires. La seconde bête, qui présente certains aspects d'un agneau, mais d'autres d'un dragon, et une multitude d'exécuteurs humains rassemblés sous les noms symboliques de Gog et Magog. Ces entreprises sont démasquées dans le deuxième chapitre, versets 9 à 10. Il a remporté certains succès, mais ses défaites sont encore plus réelles et certaines. Pour Jean, la persécution de l'Église n'est pas le véritable problème. Derrière ce combat, il y a la lutte entre Dieu et Satan. La bête qui monte de la mer est un symbole apocalyptique de l'Empire romain mondial. Mais cet empire reçoit sa puissance de Satan et sert Satan. Pourquoi une telle différence par rapport à l'attitude d'un Paul dans Romains chapitre 13, versets 1 et suivants? Parce que l'État romain n'est pas seulement un pouvoir politique, il exige l'adoration de l'empereur. Il entre donc en concurrence avec Dieu. Chacun des deux antagonistes, Dieu et Satan, a ses fidèles, ses adorateurs. L'adoration de Dieu occupe une place importante dans ce livre. Le mot « adorer » revient 24 fois dans l'Apocalypse, contre 35 fois dans le reste du Nouveau Testament, qui est 14 fois plus long. Des expressions synonymes comme « glorifier »,« louer »,« rendre grâce », »,« recevoir la gloire » et le nombre important d'hymnes et de prières montrent que l'un des thèmes importants du livre est l'adoration. Or, ceux qui n'adorent pas Dieu adorent aussi, mais le besoin d'adorer est inscrit dans les gènes humains. Ils adorent la bête. Tous les hommes prient, dit à Paul, P-O-H-L. Dans l'Apocalypse, il n'y a pas une opposition entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas, mais entre prieur et prieur. Il est vrai qu'elle connaît aussi l'opposition entre enseignement et enseignement, prophétie et prophétie, ou témoignage et témoignage. Mais dans le chapitre 13, où l'opposition atteint son paroxysme, on devient précis des deux côtés. Les arguments appellent des contre-arguments, et chacun prie. Tous les habitants de la terre, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau égorgé, adoreront la bête. Tandis que les saints, qui sont toujours présentés comme ceux qui louent Dieu, refusent d'adorer la bête et vont vers le martyre. Ce choc entre ces deux groupes de gens qui prient est le thème central du livre. Cela nous est prouvé par l'écho de ce paroxysme dans les chapitres suivants. Alors, chapitre 14, verset 9, chapitre 15, verset 2, etc. Au chapitre 13 s'ouvre la scène vers laquelle le livre tend et dont il fait le tour jusqu'à la fin. L'Apocalypse n'est pas une série de visions, c'est une vision unique. Et cette vision a un objet unique, la rédemption. Elle en peint le caractère et en écrit l'histoire. Elle en expose la doctrine et l'appuie sur les données de la révélation prophétique. Le plan de Dieu, dans son majestueux ensemble et dans ses plus minimes détails, tels qu'il se déroule à travers les siècles, sera révélé, expliqué et comme étalé devant les chrétiens glorifiés. Cette pensée est la définition même de l'Apocalypse et une sorte de commentaire d'Apocalypse, chapitre 4, verset 1. Ensuite, on a les plans du livre. Alors, comme d'habitude, je ne veux pas... on a un plan du livre. Ici, je n'ai pas mis un plan succès et un plan détaillé. J'ai mis le plan du livre qui est détaillé. Alors, comme je l'ai répété à de maintes reprises, quand on étudie un livre de la Bible ou qu'on veut commencer une nouvelle lecture, parce que des fois, on lit le même livre plusieurs fois, il est toujours judicieux de revenir sur les notes qu'on vous a données depuis le début de la Genèse et l'Apocalypse. Tous les livres ont été présentés. De relire, c'est pas très long, 14, 12, entre 12 et 15 pages, et ça vous donne une idée de la structure du livre, des principales idées qui sont développées, et c'est très important de le faire si vous voulez mieux comprendre le livre que vous vous apprêtez à lire ou à étudier. Alors, ceci étant dit, vous pourrez télécharger les notes de sermon et utiliser ces plans-là pour chacun des livres. On va terminer par le sixième point qui était quelques observations sur l'Apocalypse. Alors, les leçons du livre, il y a plusieurs leçons. D'abord, il y a une leçon de reconnaissance. L'Apocalypse nous révèle l'immense portée de notre vocation, l'amour éternel dont nous avons été les objets, notre destinée personnelle qui devient un élément essentiel dans un plan infini. Tout ce que le livre nous présente stimule notre plus grande gratitude. Deuxième leçon, une leçon de vigilance. En nous apprenant le dessein de l'ennemi et les moyens dont il dispose, notre sens du danger est éveillé. Nous apprenons que les forces hostiles agissent à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, que tout bien peut être étonnamment contrefait et qu'un mélange de biens est très souvent favorisé par le père du mensonge pour accréditer le mal. Ainsi sont démasquées toutes les religions fausses, non seulement celles qui sont en désaccord ouvert avec le christianisme apostolique, mais celles qui, tout en se rapprochant de sa ressemblance, contiennent encore des ferments du paganisme. Donc, une leçon de reconnaissance, une leçon de vigilance, la troisième leçon, une leçon de sainteté. L'Apocalypse nous donne la vision de l'immense valeur des intérêts en jeu. Intérêts qui sont primordialement la gloire divine et, secondairement, notre propre vocation. Avec le mal, aucun pacte, même inconscient, aucune concession, même passagère, ne sont permis. Quatrième leçon, une leçon de constance. Le chrétien ne saurait éluder la coupe d'amertume que le Seigneur lui-même n'a pas repoussée. Cinquième leçon, une leçon d'espérance, donnée par l'ensemble des révélations touchant l'avenir glorieux que Christ nous réserve, pas seulement celle qui concerne le retour du Christ. Les vérités de l'eschatologie devraient susciter en nous la vigilance et nous garder alertes dans l'attente du futur, mais la préparation pour ce qui arrivera veut aussi enflammer notre zèle dans les activités que le Seigneur nous a confiées. Pour tous les enfants de Dieu, le livre enseigne combien il est insensé de vivre pour des choses qui passeront rapidement. Il nous engage à témoigner auprès de ceux qui périssent et nous encourage à attendre patiemment le retour du Seigneur. Pour les incroyants, le livre est un solennel avertissement du sort terrible qui attend ceux qui rejettent le Sauveur. Trois applications. Première application, le livre de l'Apocalypse est très christocentrique. Il nous apprend beaucoup sur la manière glorieuse dont il dirige l'Église et le monde et sur la victoire finale sur tous ses ennemis. Deuxième application, l'Apocalypse est le seul livre de la Bible qui promet une bénédiction à sa lecture et à son étude. Verset 3 du chapitre 1, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Troisième application, le livre contient beaucoup de leçons pour le croyant. Reconnaissance, vigilance, sainteté, constance et espérance. Toute étude sérieuse du livre sera richement récompensée. Que notre grand et glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit adoré éternellement. Amen.